Bienvenue à toutes et à tous.
L'heure bleue sur France Inter.
Avez-vous entendu parler du fusil de Tchekhov ? Il s'agit d'un principe dramaturgique énoncé par le grand écrivain russe selon lequel tout détail mémorable dans un récit de fiction doit être nécessaire et irremplaçable. Deux points, ouvrez les guillemets. Si, dans le premier acte, vous dites qu'il y a un fusil accroché au mur, écrivait-il, alors il faut absolument qu'un coup de feu soit tiré avec, au deuxième ou au troisième acte. S'il n'est pas destiné à être utilisé, il n'a rien à faire là. Fermez les guillemets. Le régiment immortel décrit ce fusil de Tchekhov qui, en 2019, était encore accroché au mur. Galia Kerman, chercheuse, historienne, écrivaine, et ce soir notre invitée, à l'occasion de la nouvelle édition du Régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, et de la réédition de son livre intitulé « Traverser Tchernobyl ». Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique, et ce sera « Kay Tempest »,« Europe Lost ».
In a basement flat by the garages where the people dump their mattresses, Esther's in her kitchen making sandwiches. The slats on her blinds are all wonky and skewed. You can see her from the street before she moves out of view to kick her boots off tired feet. She wipes her forehead with her wrist. She's just back from a double shift. Esther's a carer, doing nights. Behind her on the kitchen wall is a black and white picture of swallows in flight. Her eyes are sore, her muscles ache. She cracks a beer and swigs it. She holds it to her thirsty lips and necks it till it's finished. It's 4:18 a.m. again. Her brain is full from all she's done that day. She knows that she won't sleep a wink before the sun is on its way. She's worried about the world tonight. She's worried all the time. She don't know how she's supposed to put it from her mind. Is lost. America lost. London lost. Still we are clamoring victory. All that is meaningless rules. We have learnt nothing from history. The people are dead in their lifetimes, dazed in the shine of the streets. But look how the traffic's still moving. Systems too slick to stop working. Business is good and there's bands every night in the pubs. And there's 2-for-1 drinks in the clubs. And we scrubbed up well, washed off the work and the stress. And now all we want some excess. Better yet, a night to remember that we'll soon forget all of the blood that was bled for these cities to grow, all of the bodies that fell, the roots that were dug from the earth so these games could be played. I see it tonight in the stains on my hands. The buildings are screaming. I can't ask for help though, nobody knows me. Hostile, worried, lonely, we move in our packs and these are the rights we were born to. Working and working so we can be all that we want and dancing the drudgery off. But even the drugs have got boring. Well, sex is still good when you get it. To sleep, to dream, to keep the dream in reach. To eat your dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do to wake up? I feel the cost of it pushing my body like I push my hands into pockets and softly I walk and I see it. This is all we deserve. The wrongs of our past have resurfaced despite all we did to vanquish the traces. My very language is tainted with all that we stole. To replace it with this, I am quiet, feeling the onset of riot. Riots are tiny, those systems are huge. Traffic keeps moving, proving there's nothing to do. Cause it's big business, baby, and its smile is hideous. Top-down violence and structural viciousness. Your kids are dope. stop them. Medical said it is, but don't worry about that, man. Worry about terrorists. The water level's rising, the water level's rising. The animals, the elephants, the polar bears are dying. Stop crying, start buying. But what about the oil spill? Shh. No one likes a party pooping spoil sport. Massacres, massacres, massacres. New shoes. Ghettoized children murdered in broad daylight by those employed to protect them. Live porn stream to your preteen's bedroom. Glass ceiling, no headroom. Half a generation lives beneath the red line. Oh, but it's happy hour on the high street. Friday night at last, that's my treat. All went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts, you can ask. I knew it was madness. Roll ran red, pure claret, and about them immigrants. I can't stand them, mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich, it's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager, pray for a raise. Cross the bays, days off on your beach, babe. Calendar, the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating who? Politico cash in an envelope. Court sniffing lines off a prostitute's prosthetic tits. Now it's back to the House of Lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits, jail him, he's the criminal.
Votre père vous a dit quoi de sa propre guerre, Galia?
Rien du tout. Il n'en a jamais parlé et pourtant il a passé toutes les 5 années de guerre dans l'armée. Il était dans un régiment d'artillerie. Et il faut dire que non seulement qu'il ne nous racontait jamais cette guerre, mais il avait deux amis qui étaient ensemble avec lui, qui sont tous les deux devenus des figures plus ou moins importantes après la guerre, ce qui n'était pas le cas de mon père parce qu'il était juif. Il voulait aussi aller dans une académie militaire, il était patriote, mais ça lui a été refusé. C'était une époque très antisémite, en fait. Et donc, mais ses deux amis ont gardé des contacts avec lui. 2-3 fois par an, ils venaient à la maison. Je me souviens très bien d'eux. Ils buvaient de la vodka ensemble. Ils discutaient de certains sujets d'actualité et jamais, jamais de la guerre.
Dans quel état d'esprit avez-vous été élevé en Russie par vos propres parents ?
Vous savez, j'ai été partiellement élevée par mes parents, mais partiellement par des amitiés qui se sont formées très tôt. Parce que mes parents, on peut dire qu'ils étaient critiques du régime soviétique parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Bien sûr, la pénurie, toutes sortes de limitations, enfin... Mais ils étaient conformistes, mes parents. Ils étaient tous les deux juristes. Et donc, ils se sont très bien accommodés à ce système, et leurs amis étaient très bien accommodés à ce système. Ils gagnaient bien leur vie. Ils étaient très insouciants parce que il faut dire que la vie en Union soviétique pour les personnes aisées pouvait être assez insouciante. Vous savez, quand vous n'avez pas de propriété, pas de déclaration d'impôt à remplir, pas de responsabilité, vous avez un travail, vous avez tous les mois votre salaire qui tombe, vous pouvez faire de longues vacances. Moi, je partais avec ma mère 3 mois par an sur la Baltique. Vous voyez, c'est un luxe qui est impossible ici aujourd'hui. Et donc, je me souviens beaucoup de leur insouciance, de toujours beaucoup de blagues, un peu de beuverie, mais amicale. Voilà. Mais moi, je ne sais pas pourquoi, vous savez, à partir de 9-10 ans, j'ai commencé à sentir que le monde dans lequel je vivais était faux, qu'il y avait quelque chose de faux. J'ai lu quelques livres de réalisme socialiste. Par exemple, il y avait un livre très célèbre, La Jeune Garde, ça s'appelait, de Fadeyev, qui était l'un des grands écrivains officiels, qui d'ailleurs plus tard s'est suicidé. Et moi, je me suis dit, ça se passait pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était l'exploit des jeunes qui résistent aux nazis, etc. Et j'ai senti qu'il y avait quelque chose de faux. Et j'ai pris la décision que je ne lirais plus de livres comme ça. Donc j'ai commencé à lire plutôt, j'ai lu tous les classiques. On avait une très bonne bibliothèque à la maison. J'ai lu les classiques français, bien sûr, mais aussi anglais, allemand, américain, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, à l'âge de 15 ans, j'ai rencontré plus ou moins par hasard un jeune homme un peu plus âgé que moi, qui avait à ce moment-là 17 ans. Et qui a commencé à me donner, il y avait un tout petit cercle autour de lui, il a commencé à me donner, par exemple, des poèmes qui n'étaient pas interdits, mais pas autorisés ou publiés non plus. Vous voyez, comme le grand poète premier mari d'Anna Akhmatova, Goumilyov, qui a été fusillé, comme Mandelstam, comme Tsvetaeva, etc., que je recopiais. Et il me prêtait soit des livres très anciens qu'il a pu acheter chez des bouquinistes, soit déjà des copies. Et moi, je copiais, j'avais des cahiers remplis de poèmes. Ensuite, je les partageais avec quelques amis à l'école. Et déjà ça, rien que ça, ça m'a formée peut-être plus que mes propres parents. Et ensuite, j'avais 16 ans. J'ai rencontré, c'était des amis de mes parents, donc qui étaient passés deux trois fois à la maison et qui m'ont dit mais si tu veux tu viens toute seule chez nous. Et donc j'ai commencé à venir et en fait c'était un cercle plus ou moins dissident où il y avait des dissidents actifs mais aussi des gens qui tout simplement copier et diffuser le samizdat. Et donc, à l'âge de 16 ans, ne comprenant pas que c'était dangereux parce que toutes les machines à écrire ont leur particularité, et ça a été consigné par le KGB, c'est-à-dire, en principe, ils pouvaient reconnaître à partir de quelle machine à écrire c'était fait. Et donc, pendant une année entière, dans l'inconscience, jusqu'à ce que quelqu'un me fasse cette remarque, j'ai copié pas mal de samizdat. Et après, j'ai rencontré encore d'autres amis parce que via une amie à l'école. Et donc là, je me suis rapprochée déjà des gens qui étaient proches de Solzhenitsyn. Donc je me souviens qu'à l'âge de 18 ans, juste après la fin des études, on a eu nos diplômes donc de fin d'études à l'école, l'équivalent du bac. Et nous étions tous en petit groupe, en location des dachas dans un village près de Moscou, où Solzhenitsyn a vécu un certain moment. Et on avait juste encore un intermédiaire pour lire en temps réel ce qu'il écrivait. Vous voyez, donc mon éducation, en fait, a été... je dirais achevé parce que j'ai acquis toutes les certitudes quant au régime soviétique, le vrai visage du rêve communiste, avec bien sûr l'invasion de la Tchécoslovaquie. J'avais 20 ans et j'avoue que ça m'a totalement bouleversée. Et depuis lors, la question s'est posée, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut lutter, sachant que c'est la prison, la colonie pénitentiaire est exclue de la société, ou partir? Bon, la possibilité de partir ne s'est pas présentée de sitôt, mais dès qu'elle s'est présentée, c'était bye-bye et je n'ai jamais regretté le choix que j'ai fait.
Je vous propose d'écouter la voix d'une résistante qui a payé de sa vie son courage intellectuel et politique, à qui est dédié d'ailleurs ce livre extraordinaire qui reparaît ces jours-ci, intitulé « Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine ». C'est Anna Politkovskaya. Elle va parler de l'enfer qu'elle a vécu en couvrant la guerre de Tchétchénie. C'était au micro de Thierry Thuillier. C'est une archive INA du 17 mars 2003, la voix de Anna Politkovskaya.
Oh, ce n'est pas une exagération, une image journalistique. L'enfer, c'est l'endroit où les gens meurent. Des gens comme moi, parce que d'autres qui possèdent le pouvoir et les armes partagent l'argent entre eux. C'est pour ça que j'appelle ça l'enfer. C'est une vraie tragédie. Les gens dont je parle dans mon livre, je les ai connus personnellement et ils ne sont plus là. Ce sont mes héros, non pas parce qu'ils sont morts, mais parce qu'ils ont partagé le destin de la population civile de Tchétchénie. Ils sont proches de moi. Je refuse catégoriquement de distinguer deux camps. Nous vivons tous dans le même pays et nous sommes tous des êtres humains. Mais il est vrai que la société russe évolue comme une société fasciste, où les Tchétchènes sont des sous-hommes. Ce sont des hommes de deuxième, voire de troisième catégorie. Ils n'ont pas les mêmes droits, des droits qui sont déjà très réduits, même pour moi, en tant qu'habitante de Moscou.
Est-ce que vous vous sentez soutenue par l'opinion russe? On a quand même un peu le sentiment que vous êtes seule à crier votre colère.
Je dirais presque seule. Peu de gens comprennent ma position. Ici, dans le pays, presque personne ne me comprend. J'ai beaucoup parlé devant des auditeurs européens et j'ai eu la désagréable sensation d'être prise pour un animal exotique qui ajoute du piquant à la vie des gens qui m'écoutent. Mais ils ne laissent pas cette tragédie venir jusqu'à eux, jusqu'au cœur. Ça les divertit simplement.
Voilà, d'abord c'est très émouvant d'entendre la voix d'Anna Politkovskaya. Je me demandais si pour vous, Galia Ackerman, Anna et d'autres journalistes devant l'éternel comme elle, qui avec leur courage ont réussi non seulement à comprendre la situation, mais l'ont payé du prix de leur propre vie, étaient finalement des continuateurs, des dissidents, de ceux qui ont pu quitter leur pays, la Russie, pour venir en Occident raconter ce qui leur était arrivé dans les camps de travail. Et d'autre part, je voulais que vous rappeliez cette solitude dont parle Anna dans ce document sonore. Nous sommes à ce moment-là en 2003, elle dit que personne ne l'écoute, et pourtant elle dit déjà la vérité. Aujourd'hui, on est le 3 mai 2022, est-ce que cette solitude a été rompue? Est-ce que l'invasion en Ukraine a transformé le rapport des forces et notre vision des choses? Et dernier point, cette notion d'humanité à laquelle se réfère Anna Politkovskaya, elle dit que le système russe actuel de Poutine ne définit pas des êtres à égalité dans la notion d'humanité. Est-ce que vous pensez qu'encore aujourd'hui, elle a raison?
Vous savez peut-être que j'ai très bien connu Anna, c'est moi qui l'ai amenée à être publiée en France, et j'ai traduit pratiquement tous ses livres à l'exception d'un, et même après sa mort, avec Jean-François Boutor à l'époque, donc c'était Bûcher-Chastel, nous avons publié d'une part plusieurs de ses reportages sous le titre « Que faire ?» et ensuite même un recueil de souvenirs d'elle, en essayant de cerner cette personnalité. Maintenant, vous savez, j'ai connu Anna pratiquement dans les premiers mois après le déclenchement de la guerre en Tchétchénie, et j'ai été tout de suite frappée par la force extraordinaire de cette femme, qui, Dieu sait comment, conjuguait cette force extraordinaire avec une très grande féminité, avec le fait d'être une très bonne mère. Mais c'est vrai qu'elle se sentait totalement seule. En fait, elle a commencé à parler de la fascisation de la société russe, même pas en 2003, mais en 2001. Et les gens ne comprenaient même pas de quoi elle parlait. Parce que cette guerre, elle, d'ailleurs comme la guerre en Ukraine, elle s'appelait pas la guerre, ça s'appelait opération antiterroriste. Et ça se passait dans cette vilaine Tchétchénie, quelque part, au loin, alors que Moscou vivait son boom de consommation avec les prix de l'énergie qui ont, pour le grand bonheur de Vladimir Poutine, qui ont commencé à augmenter. Et donc, elle disait qu'elle allait en Tchétchénie une ou deux fois par mois, et Là, elle voyait le sang, les tragédies, les gens qui disparaissaient, les gens qui ont été fusillés, les gens qui ont été torturés. Parfois même, ça c'était extrêmement tragique pour elle, ceux qui consentaient à lui parler, elle publiait un reportage et quelques jours plus tard, cette personne a été tuée. Vous voyez, c'est-à-dire que les gens payaient le fait de témoigner de leur vie et ça c'était une énorme tragédie pour elle. Mais elle rentrait à Moscou et Moscou était fichée. Steve et Moscou ne pensaient que vacances dans les Caraïbes ou en Turquie, de fringues, de voitures, de bons restaurants qui s'ouvraient comme des champignons. Et donc, elle se sentait totalement incomprise. Elle n'était pas seulement incomprise par la population générale, mais même par la communauté journalistique. Je me souviens, plusieurs années déjà, même après sa mort, j'ai parlé à un très grand journaliste russe, que je ne nommerai pas, mais qui a toujours été plus ou moins dans l'opposition, qui maintenant a dû quitter la Russie. Mais lui, il m'a dit, mais Galia, Anna n'était pas une journaliste. Elle s'occupait des problèmes des droits de l'homme. Ça n'a rien à voir, c'était pas objectif. Et puis, elle était hystérique. Eh bien, elle était hystérique peut-être, dans certains cas, parce que quand vous touchez au mal, quand vous voyez une histoire comme, je ne sais pas, la voiture qui transporte une famille et qui est délibérément, sur laquelle délibérément les soldats russes tire et tue tous les 5 occupants de la voiture et ensuite la roule dans l'abîme. Vous voyez, elle était confrontée aux attentats de la Dubrovka quand les forces spéciales russes ont gazé la population, etc. Et elle avait l'impression que non seulement qu'elle avait relativement une petite audience en Russie, mais elle jouissait d'un prestige. On l'a invitée au Congrès des États-Unis, on l'a invitée au Parlement européen, etc. Mais c'était une voix solitaire contre la Russie pour laquelle on disait « Ah oui, mais vous comprenez, la démocratie est encore toute fraîche, et puis bon, la Tchétchénie, c'est vrai qu'il y a des islamistes, etc. » Donc, elle n'a pas pu transmettre au monde l'avertissement qui s'avère totalement vrai aujourd'hui. En fait, elle était prophétique. Et vous savez, encore peut-être une petite chose, j'ai relu il y a quelques jours un livre qui a été publié en 2000. C'est un long entretien, une série d'entretiens très exactement, par 3 journalistes russes de Vladimir Poutine, qui à cette époque est encore président par intérim. Il a été désigné, il était chef du gouvernement quand Yeltsin prend sa retraite. Automatiquement, il devient président par intérim, mais il doit encore subir les élections. Et donc, 3 journalistes font un livre portrait de lui, bien sûr très complaisant, je pense même qu'il y a pas mal de fausses informations dedans, mais ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est qu'il explique sa guerre de Tchétchénie, donc la deuxième guerre tchétchénie qui s'appelle opération antiterroriste. Et ce qu'il dit au sujet de Tchétchénie, il y a 20 ans, c'est exactement ce qu'il dit aujourd'hui au sujet de l'Ukraine. On voit aujourd'hui rétroactivement qu'en fait, tout le grand projet qu'il est en train d'essayer de réaliser actuellement, à savoir la reconstruction non seulement de l'Union soviétique en tant qu'unité géographique, mais qu'il est en train de ressusciter pas simplement les mœurs soviétiques, mais je dirais les mœurs staliniennes. Tout ça était dans sa tête. Et si vous analysez rétroactivement ça, pas à pas, tout ce qu'il a fait dans sa carrière, vous verrez que c'est exactement vers ce qui se passe aujourd'hui qu'il marchait à pas prudent.
Votre livre qui ressort aujourd'hui avec une nouvelle préface, Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine, introduit une dimension historique incontestable et très lumineuse, en tout cas en ce qui me concerne, pour essayer de comprendre la falsification de la langue dont use Vladimir Poutine depuis le début de ce nouveau, entre guillemets, conflit, de cette nouvelle guerre. Vous y introduisez l'idée que Vladimir Poutine s'inscrit dans une historicité extrêmement longue. Vous venez de parler de Staline, mais vous inscrivez la méthode Poutine en la faisant remonter à la Russie, au tsarisme, à la personne d'Ivan le Terrible, puis à la personne de Pierre le Grand, puis ensuite à l'introduction du communisme et du marxisme comme les prophètes d'une nouvelle humanité. Est-ce que vous pensez, Galia Ackermann, qu'aujourd'hui, en ce triste jour du troisième mois du début de la guerre en Ukraine, cette dimension-là est maîtrisée, volontaire, et est-ce qu'elle porte l'adhésion du peuple russe, cette vision-là de Vladimir Poutine ?
Ce que j'ai essayé d'expliquer dans mon livre, c'est que depuis plusieurs centaines d'années, le peuple russe vit avec des idées messianiques en se considérant comme un peuple très particulier et qui a droit d'être en tête d'un ensemble beaucoup plus grand même que son propre territoire. Il s'agissait d'abord de Moscou IIIe Rome, après donc le sac de Constantinople. Moscou a pris sur elle d'être la protectrice de tous les chrétiens orthodoxes. Ensuite, cette idée s'émue tout simplement dans une idée purement impériale, c'est-à-dire l'empire perçu comme une entité qui dépasse de beaucoup l'individu, qui a quelque chose de presque de surnaturel, et dont la fonction consiste à s'étendre, à étendre les frontières. Et donc, dans cette admiration de l'État fort qui conquiert un territoire après l'autre pour, dit-on, y porter la lumière, ont été élevées des générations et des générations de citoyens de cet empire. Je vous donne un exemple très simple. Vous savez, Pouchkine est considéré à ce jour comme le plus grand poète russe. Et on sait très bien que dans sa jeunesse, il était proche des décembristes. Il était en fait contestataire de l'autocratie. Il a écrit des poèmes là-dessus. Ensuite, il s'est un peu rangé et le tsar Nicolas Ier est devenu son censeur personnel avec une relation semi-amicale et semi-contrainte. Ce qui est surprenant quand même, que en 1830, quand commence la première révolte polonaise contre l'Empire russe, Alexandre Pouchkine, pourtant, je dis encore une fois, pas tout à fait sincère sujet du tsar, parce que il abhorrait l'autocratie, il écrit un poème qui s'appelle « Au calomniateur de la Russie ». Et ce poème, il vilipende les Polonais. Et il dit, vous savez, ça c'est notre petite affaire entre Slaves. Vous, les Occidentaux, ne vous y mêlez pas, vous allez y laisser vos cadavres. On a assez de steppes pour vous enterrer tous. Vous voyez, c'est-à-dire même un poète comme Pouchkine a été touché par cette idée qu'on ne peut pas faire quoi que ce soit contre l'Empire. Il y a une conscience impériale. Et je vous donne un autre exemple, encore plus choquant pour moi. Vous savez, le grand poète Joseph Brodsky, qui a quitté l'Union soviétique dans les années 70, il était certainement anti-soviétique, très certainement. Et il a eu prix Nobel de littérature, il a enseigné aux États-Unis. Presque 20 ans après son émigration aux États-Unis, en 91, au moment où l'Ukraine a proclamé son indépendance, il a écrit une sorte de poème pour, cette fois, vilipender les Ukrainiens en les insultant, et implicitement en disant que leur culture était bien inférieure à la culture russe et qu'ils aient au diable, il les appelle d'un diminutif assez offensant.
Donc, si je vous comprends bien, Galia Ackermann, c'est pas simplement une histoire de politique, de gouvernement, de chef d'État. C'est aussi quelque chose qui est profondément inscrit dans l'ADN du peuple russe.
Je pense parce
la
que...
La supériorité de ce la, peuple...
La supériorité...
Mystique, quasiment.
Mystique, quasiment. Et vous savez, la supériorité de la culture russe. Mais cette culture russe, même pour la langue, je me souviens, vous savez que j'ai fait quand même, j'ai fait mes études à l'école soviétique, et on nous apprenait dès les premières années, c'était une terminologie officielle, la grande et puissante langue russe. En quoi la langue russe serait plus grande et plus puissante que la langue estonienne ou française ou n'importe quelle autre? Elle est grande et puissante parce que elle s'adosse à un empire puissant. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc, ces idéologies ont pu changer, mais il y a toujours une idée messianique derrière. Une idée qui dépasse encore une fois.
C'est-à-dire que le mot de propagande, le mot d'idéologie ne sont pas des mots, des concepts opératoires pour comprendre cette adhésion de chaque citoyen russe à sa patrie.
Patrie, c'est peut-être le mot-clé. Et voyez, par exemple, après la victoire des bolcheviks, donc on a imposé une nouvelle idée messianique qui était que la Russie se trouvait à l'avant-garde de la révolution mondiale parce que, d'un point de vue historique, selon la conception marxiste, le capitalisme partout devait passer par le stade supérieur qui est l'impérialisme et ensuite être remplacé à la suite des renversements, des révolutions, par le socialisme qui est le stade préliminaire du communisme. Donc là, de nouveau, comme la révolution partout ailleurs a échoué, il n'y avait que la Russie, l'idée était que la Russie est l'avant-garde de toute l'humanité, et c'est comme ça qu'elle s'est comportée, l'Union soviétique, pendant toutes ces années de son existence. Maintenant, ce qui s'est passé après l'éclatement de l'Union soviétique, c'est que l'idée communiste a été totalement perdue. Et c'est en fait, ça a commencé sous Yeltsin et a pris de l'ampleur inédite sous Poutine. Donc la nouvelle idéologie était la grande victoire dans la Seconde Guerre mondiale, qui en quelque sorte est perçue faussement comme la victoire du plus grand bien sur le plus grand mal qui était le nazisme. Donc le plus grand mal, je suis d'accord, le plus grand bien, je suis pas d'accord. Mais donc, pour étayer cette conception, il fallait réécrire la vraie histoire de la Seconde Guerre mondiale, réécrire le rôle de Staline, parce que celui qui a vaincu le plus grand mal du siècle et qui incarne le plus grand bien du siècle, il ne peut pas être en même temps le bourreau sanguinaire du peuple soviétique.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Galia Ackermann, Kinder Toten Lieder de Gustave Mahler par Kathleen Ferrier.
Gegangen und werden nicht.
Merci pour ce choix, Galia. Il vous évoque un souvenir personnel ?
Il m'évoque beaucoup de choses. C'est pour ça que je vous ai proposé d'écouter donc ce morceau. C'est donc des chants d'enfants morts de Mahler. Bien sûr, l'occasion pour laquelle ce chant a été composé, c'est une occasion personnelle pour Mahler, dont un ami a perdu ses deux enfants. Et donc c'est un peu requiem pour ces enfants morts. Mais pour moi, ça évoque beaucoup de choses. D'une part, bien sûr, l'Holocauste. Donc, comme vous savez, on vient de commémorer, donc encore une fois, l'Holocauste. Et une partie de ma famille a péri dans l'Holocauste, et aussi de la famille de mon mari. Ma belle-mère était à Auschwitz. Elle a survécu, mais toute sa famille, encore 6 frères et sœurs, ont péri, les parents, etc. Donc c'est quelque chose qui est constamment présent chez nous. C'est comme une plaie qui ne guérit pas. Et d'un autre côté, aujourd'hui, sur cela se superpose le sort des enfants ukrainiens. Comme vous savez, il y a déjà des centaines d'enfants qui ont péri dans les bombardements plus ou moins indiscriminés des Russes. Voilà, donc c'est à tous ces enfants ukrainiens aussi, pas seulement aux victimes de l'Holocauste, que je dédie en quelque sorte cette musique de Mahler.
C'est une dimension très importante de cet ouvrage, Le Régiment Immortel, la guerre sacrée de Poutine, que la jeunesse russe. Dans la dernière partie de votre livre, Galia Ackermann, vous parlez de ces jeunes générations qui, en Russie, dès leur plus jeune âge, sont obligées d'être enrégimentées. Ça commence très tôt. On leur apprend une culture de guerre. Au début, c'est un peu comme du carnaval ou comme une sorte de fête. Mais on leur donne, à la place d'un, finalement, d'un habit de clown, on va donner un habit de soldat, puis à la place d'un jouet, on va donner une kalachnikov, en plastique certes, mais une kalachnikov quand même. Et il y aurait, depuis maintenant 2 décennies, en Russie, une sorte de volonté de construire la société de demain pour 2034, 2044, 2054.
Je ne dis pas qu'on embrigade tous les enfants. Je pense que ça se passe surtout des orphelinats, des internats, des écoles d'élèves officiers, etc. Mais Monsieur Shoigu, qui est le ministre de la Défense, c'est lui qui a créé le mouvement qui s'appelle Jeune Armée. C'est un mouvement paramilitaire, on peut dire. C'est un peu comme des scouts. Sauf que ils sont embrigadés à partir de l'âge de 8 ans. Ils ont une uniforme spéciale et chaque unité de cette jeune armée est parrainée par une vraie unité de combat. Et donc on leur inculque à grande dose non seulement le patriotisme, non seulement le désir de défendre leur patrie. Vous savez que c'est le plus facile d'embrigader les enfants soldats dans les pays africains, c'est souvent les plus horribles en quelque sorte, parce que le cerveau de l'enfant est encore souple. Cette jeune armée, ils sont totalement militarisés, ils marchent pas, ils participent à tous les défilés, etc., etc. Et donc c'est bien sûr c'est les soldats de demain. Et en plus de ça, il y a une éducation patriotique obligatoire dans toutes les écoles. Il y a des cours d'instruction militaire dans toutes les écoles. Et à travers tout ce réseau éducatif, il y a des sociétés militaro-patriotiques, militaro-historiques, etc. Donc, on embrigade le maximum de jeunes dans des structures plus ou moins militarisées. Et vous savez, je donne ce texte, je crois, à la fin de mon livre, où il y a une chanson qui a été...
Un hymne. Voilà. Dont les paroles sont terribles.
Voilà. Et donc, ils disent très clair, s'il faut aller au dernier combat oncle Vova, et oncle Vova, c'est Vladimir Poutine, parce que Vova, c'est diminutif de Vladimir, et oncle ou tante, c'est comme ça que les enfants s'adressent aux adultes. Vous voyez ? Donc, s'il faut aller au dernier combat, oncle Vova...
Donc, Staline, c'était le père des peuples, mais voilà. Rien n'a changé. Vladimir Poutine, c'est le père de tous les enfants.
Bien sûr. Et donc, nous irons avec toi. Nous irons avec toi. Nous irons à la mort avec toi. Ce thème de la mort est maintenant présent en permanence. C'est-à-dire, il y a le désir, d'une part, d'exterminer et d'en finir avec le monde occidental. Et ça n'a pas commencé en 22. Ça a commencé, en fait, autour de 2014, après l'annexion de la Crimée. Parce que quand on rentre sur un chemin criminel, un pas mène vers un autre pas. Vous voyez, ils ont transgressé. Et donc violer la loi internationale. Et maintenant, il faut soit s'excuser et reculer, soit aller de l'avant. Et donc, le choix a été fait, ils vont de l'avant et nous voyons les terribles conséquences de ça.
Nous sommes aujourd'hui le 3 mai. On nous parle beaucoup dans tous les médias du 9 mai. Vous expliquez, Galia Ackermann, dans votre livre lumineux, ce qu'est cette journée du 9 mai et comment elle a été construite idéologiquement, politiquement, stratégiquement et presque, si j'ose dire, existentiellement par Vladimir Poutine pour la population comme étant une date extrêmement importante. Je vous propose d'écouter un reportage de ce défilé du 9 mai sur la Place Rouge. C'était le 9 mai 2015 et c'est une archive du journaliste Alban Mikovski.
1h30 de grand spectacle dans le ciel de Moscou et tout autour du Kremlin. La Place Rouge en a connu des défilés, mais celui-là restera comme le plus vaste. 16 000 soldats, près de 200 véhicules blindés comme ces nouveaux chars Armata, jusqu'alors restés secrets. Viennent ensuite les missiles intercontinentaux qui peuvent théoriquement toucher les États-Unis. Une démonstration de force voulue par Vladimir Poutine lui-même. Au-delà de la commémoration du 70e anniversaire de la capitulation allemande, le président russe a mis en garde les Occidentaux qui essayent, selon lui, d'imposer leurs lois au monde entier.
Depuis quelques années, nous voyons les tentatives de créer un monde unipolaire. Cela a conduit au contraire à la formation de blocs, à augmenter la tension. Tout cela sape la stabilité internationale.
Derrière le président russe, 28 chefs d'État assistent au défilé. Le protocole met en valeur les numéros 1 chinois, indiens, égyptiens. Les occidentaux brillent eux par leur absence. La France a choisi une formule médiane. Elle n'assiste pas au défilé, mais Laurent Fabius participe à une cérémonie à la mémoire des victimes. Il est là, au troisième rang à droite. Une discrétion que regrettent les Russes.
On regrette qu'il ne soit pas venu. Notre victoire a été commune, surtout les Français qui ont été des résistants, des pilotes à nos côtés. On se souvient de tout ça.
C'est dommage toutes ces absences pour nous et pour les absents eux-mêmes.
Pendant de longues heures, la foule est restée compacte. Des dizaines de milliers de moscovites avec le portrait d'un père, d'un grand-père, qui a combattu contre les nazis. Au milieu de cette foule, Vladimir Poutine apparaît avec une photo de son propre père, ancien combattant à Saint-Pétersbourg. Il ne reste aujourd'hui en Russie que quelques centaines de vétérans de la Deuxième Guerre mondiale.
Nous venons d'entendre ce reportage qui a été effectué en 2015. Aujourd'hui, nous sommes en mai 2022, à quelques jours de ce 9 mai. Vous expliquez, Galia Ackermann, en termes très convaincants, comment Vladimir Poutine a instrumentalisé la mémoire politique de son peuple, comment lui-même s'est mis en scène avec autour de son cou la pancarte de son père blessé lors de la Seconde Guerre mondiale, et comment ce défilé du 9 mai a lieu non seulement partout en Russie, dans toutes petites bourgades et dans les grandes villes, mais aussi partout dans le monde, y compris dans certaines villes françaises. Que va-t-il se passer au moment du 9 mai ? A-t-on avez-vous le sentiment, Galia Ackermann, que ce 9 mai sera un moment déterminant où Vladimir Poutine doit ou veut dire quelque chose à son peuple sur cette tragédie ukrainienne?
Je pense qu'il va continuer exactement sur la même ligne que maintenant, c'est-à-dire qu'ils veulent libérer définitivement le Donbass, qu'ils veulent mettre à plat la capacité de défense de l'Ukraine, parce que la Russie continue à nier les bombardements de civils, continue à nier les massacres. Tout cela, ils disent que c'est l'œuvre des Ukrainiens, ce qui bien sûr contredit les faits déjà fermement établis. Et donc, ce 9 mai, pour moi, c'est encore un pas probablement dans la fuite en avant. Parce que Poutine, depuis des années, vit totalement dans la bulle de sa propre idéologie, de sa propre vision du monde, qui est totalement fausse. Et donc, moi, je ne m'attends pas à quelque chose de décisif ce jour-là. Il y aura encore un grand défilé de chars et d'autres moyens techniques avec toute la pompe. Et ensuite, il y aura le régiment immortel. Ce qui me choque, c'est qu'ils veulent organiser des régiments immortels, des processions dans les villes qu'ils prétendent avoir libérées, nous utilisons plutôt le mot occupées, y compris dans la ville martyre de Mariupol, où on prépare donc ce défilé du régiment immortel. Vous savez, la population qui reste, elle est totalement dépendante maintenant des autorités parce que ils sont les seuls à approvisionner en aide humanitaire ceux qui ont signé en quelque sorte l'allégeance à la nouvelle administration militaire. Donc je pense qu'il est tout à fait possible que même ces pauvres gens qui se sont terrés pendant 2 mois dans des caves seront obligés de marcher au pas avec des portraits qu'on leur fournira, pas de présence.
Justement, Galia, on a appris tout à l'heure que les Russes avaient décidé, en tout cas annoncé, la fin définitive de Mariupol. Que peut-on attendre aujourd'hui, si ce n'est le pire du pire ?
Écoutez, il y a toujours une population à Mariupol. Il y a même une ou deux écoles qui ont repris, mais bien sûr, on leur a remplacé la première chose, les profs et les manuels d'histoire. Et donc, je pense que ces gens sont réduits pratiquement, plus ou moins, à l'esclavage et qu'ils vont faire ce que les autorités d'occupation leur disent de faire. Quant à l'usine Azovstal, où il y a encore peut-être 1500 ou 2000 combattants, il paraît que les Russes ont réussi à bombarder la partie de l'usine où il y avait des provisions qui auraient permis à ce groupe de tenir plus longtemps. Mais maintenant, s'ils n'ont plus de provisions, bien sûr, ils ne pourront pas résister très longtemps, à moins qu'un miracle ne se produise.
Je crois que vous ne croyez pas au miracle. Les Russes ont annoncé l'assaut final sur Mariupol. Et vous avez signé aujourd'hui même dans le journal Le Monde un éditorial extrêmement passionnant consacré justement à l'arme suprême que possède Vladimir Poutine, dont on connaît l'ampleur et dont on parle finalement encore en ce moment à bas bruit. Cette arme suprême, c'est la famine mondiale. Votre éditorial s'intitule « Une opération militaire humanitaire des Occidentaux en mer Noire pourrait éviter une famine mondiale ».
Oui, c'est vrai, mais vous savez, entre-temps, l'édito, donc, il a été écrit il y a quelques jours, et les choses progressent vite. On apprend entre-temps que les Russes réquisitionnent maintenant le grain par camion entier et l'emportent vers la Russie. Non seulement pour pourvoir à leurs besoins, mais pour affamer les Ukrainiens et les rendre plus dociles, à savoir qu'ils vont entièrement dépendre dans les régions occupées des administrations militaires. C'est tumeur ou tu te rends. Et ça, c'était exactement la même arme qu'a utilisée Staline pendant la famine artificielle organisée en 1932-33 qui a coûté la vie à 4 millions d'Ukrainiens. Voilà, malheureusement, Poutine, c'est la marche à rebours, c'est la marche à reculons. La Russie plonge de plus en plus dans cette ambiance stalinienne et dans les pratiques staliniennes, notamment les pratiques dans les territoires occupés pendant la Seconde Guerre mondiale.
Merci infiniment, Galia Ackermann, pour votre témoignage, pour vos livres, la qualité historique de vos livres et pour votre expérience. Je rappelle aussi que vous dirigez un média indépendant qui s'intitule Desk et qui nous permet d'être très connaisseurs de ce qui se passe au jour le jour en Ukraine. Vos deux livres reparaissent ces jours-ci. Ils s'intitulent « Le régiment immortel, la guerre sacrée de Poutine » et « Traverser Tchernobyl », parce que vous avez vécu à Tchernobyl. Nous n'avons pas eu le temps d'en parler, mais c'est aussi quelque chose de très important dans ce qui se passe dans cette guerre en Ukraine. Et ils sont tous les deux publiés aux éditions Premier Parallèle. Merci infiniment, Galia.
Ben, merci à vous, Laure.
Je regarde dehors, je vois des montagnes nues dans mon village du nord, la fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt. Je suis sur Labrador, les murs me font perdre la vue et mon visage se tord, la fièvre noire. J'aimerais te mordre plutôt. Fenêtre est close et j'ai le vague là.
C'est avec Laura Cahen que nous allons nous quitter ce soir. Merci encore Galia Ackermann. Merci à Jean-Philippe Jeanne qui était à la régie technique ce soir. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Céline Villegas, Élodie Royer, Marie Clément et bien sûr à Lilian Allôme qui comme chaque soir a réalisé cette émission.